Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Lorsqu'il avait 14 ans, raconte un journaliste anglais, une camarade de classe lui affirma qu'elle était à moitié vierge. Cela le troubla profondément, il lui semblait en effet qu'être vierge, c'était comme être enceinte, soit on l'était, soit on ne l'était pas. Dans un genre un peu différent, la doctrine explique aux kamikazes et autres candidats au suicide djihadiste que les attendent en récompense de leurs actes au paradis 80 houris et qu'elles sont non seulement vierges, bien évidemment, mais perpétuellement vierges, c'est-à-dire que leur hymen se reforme en quelque sorte automatiquement après chaque relation. Rarement fiction culturelle, construction idéologique n'aura suscité autant de fantasmes, de surveillance et de contrôle que la virginité. Pourtant, sa signification sociale, religieuse et même médicale a beaucoup évolué. Chez les anciens, l'hymen est vu comme quelque chose de rare, voire d'inexistant. Au Moyen-Âge, il n'est qu'un signe de virginité parmi d'autres. Pour les penseurs chrétiens, la virginité en effet physique est centrale, mais ce n'est pas la seule caractéristique de la pureté virginale. Un traité par exemple du XIIIe siècle explique que si la Vierge éprouvait de la jalousie, ce qui est donc mal, c'est comme si elle se prostituait avec le démon. Je laisse cette histoire à votre réflexion. Jusqu'au XVIIIe siècle, enfin, même si la virginité est déjà un signe moral de pureté, qu'elle garantit l'intégrité de la lignée, les médecins recommandent de la perdre le plus tôt possible. Une femme restée vierge trop tard est associée à l'idée de maladie et de mauvaise santé. L'insuffisance des rapports sexuels est la cause, sachez-le, d'une série d'afflictions comme la suffocation, une grande pâleur, l'anémie. La vieille fille devient vite folle ou malade. Aujourd'hui, bien sûr, l'importance de la virginité est très diversement appréciée. Comme on sait, il y a même une école islamique dans l'état de Victoria où le directeur a interdit aux jeunes filles de courir car elles risquent en courant de perdre leur virginité. Voilà. Tout de suite, donc, vous avez deviné que nous allions parler de virginité, la perdre ou pas et comment. Ce sont des histoires racontées par Alice Milo pour Les Pieds sur Terre, quartier d'été, ma première fois. C'est parti.
J'ai 38 ans, je suis encore vierge. Comment j'en suis arrivée là? J'ai grandi dans une cité où être femme est vraiment difficile, du moins s'affirmer en tant que femme reste difficile. Tant que vous portez des jeans et des joggings, tout va bien. Le jour où vous portez une jupe, il y a un problème. Mes premiers talons, j'ai dû les porter à l'âge de 25 ans. Mais sinon, avant ça, c'était systématiquement jeans, jogging, basket. Et donc, un garçon manqué. Voilà. Et à ceci s'ajoute ma culture. Je suis d'origine maghrébine. Très tôt, on nous apprend que la femme, sa virginité, elle doit ne la perdre qu'avec une seule personne, son futur époux. Vous grandissez avec ça, c'est ancré, c'est dans votre tête. Donc, c'est vrai, enfin, vous avez cet interdit d'approcher l'autre. C'est limite si on se dit, oh là là, il vient me parler, mais c'est mal. Et à ceci s'ajoute le fait que j'avais un physique plutôt ingrat, obésité, je portais des grosses lunettes. Donc imaginez-vous un peu ce que ça peut représenter quand vous êtes au collège. Des insultes telles que la grosse, hein, forcément, la vache, il y a Bidule, les plus grosses fesses de la cité. Des choses comme ça, des choses qui marquent, qui vous blessent. Pourquoi ? Pourtant, je suis comme eux, je comprends pas, je comprenais pas du moins. Et à mon entrée dans la vie active, donc vers l'âge de 21 ans à peu près, j'ai changé physiquement, hein, j'ai perdu du poids, j'ai commencé à m'affirmer en tant que femme, hein, donc à porter des bijoux, à mettre des robes, des jupes. J'ai perdu quasiment l'équivalent d'une cinquantaine de kilos. J'ai commencé à fréquenter des hommes, mais alors paradoxalement, alors que c'était un moment attendu, hein, paradoxalement, je pense avoir développé une sorte de bouclier qui a fait que à chaque fois qu'on venait vers moi, je donnais pas suite tout simplement parce que j'avais ce sentiment de fierté et de revanche sur mon passé, hein, puisque bah, j'ai changé physiquement, ah ok, je plais aux hommes maintenant, et je vais me quelque part, hein, je pense que je me vengeais d'eux, de la situation qu'ils m'ont fait subir par le passé, de toutes les insultes, les brimades que j'ai reçues, en leur disant bah non, je veux pas aller plus loin avec toi, non, ça n'ira pas plus loin, non, tu ne m'intéresses pas, et je me disais systématiquement je vaux mieux. Voilà. Les années passent et je vaux mieux. C'est comme ça qu'à 38 ans, je me suis retrouvée toute seule. Donc, jusque 26 ans, je portais cette virginité comme une fierté, hein, c'était mon identité, j'étais différente des autres, j'avais ce petit plus. Moi, tu sais, personne ne m'a touchée, parce que j'attends le bon. J'en étais fière, j'avais encore ces idéaux de perdre cette virginité avec uniquement l'homme de ma vie, hein, celui qui serait le père de mes enfants. Je le vivais bien, hein, y avait vraiment aucun souci, même si autour de moi, enfin mes copines avaient toutes perdu leur virginité depuis quelques années déjà, je me sentais pas je vais la perdre moi aussi pour être à égalité avec elle. Il n'y avait pas du tout ce problème de compétition, enfin il n'y avait pas de compétition, pour moi c'était normal. Ça a commencé à être un problème à partir de l'âge de 26-27 ans, où là, j'ai commencé à le ressentir comme un boulet, un handicap. Depuis quelques temps, j'ai choisi les sites de rencontres. Au bout de plusieurs rendez-vous, je me sens le devoir, dans un souci d'honnêteté intellectuelle, de leur dire « je suis vierge ». J'ai 38 ans, je suis vierge. Je peux vous assurer qu'ils prennent leurs jambes à leur cou et qu'ils font demi-tour. Ils sont effrayés. Je sais pas. C'est comme si je leur annonçais que j'étais malade. C'est la même chose. Alors certains vont croire que c'est une blague, des coups de poker, des choses comme ça, mais non, je suis sérieuse. À l'annonce de cette virginité, la réaction est la même, et systématiquement la même. Où j'ai plus de nouvelles, où j'ai droit à l'AIUS, écoute, t'es une fille bien, je pense que tu mérites quelqu'un, de rencontrer quelqu'un qui soit à la hauteur de tes attentes, des phrases à l'eau de rose auxquelles je n'y crois absolument pas, ou plus. Enfin, et il y en a qui vont dire clairement qu'ils ont une libido assez exacerbée et qu'il faut y aller, hein, qu'ils n'aiment pas attendre. D'autres, t'es une fille bien, mais je pense pas que je sois quelqu'un pour toi. Il y en a même un qui m'avait proposé des jeux, dits sexuels, mais sans pénétration. Comme ça, je gardais ma virginité pour l'homme de ma vie. Il m'avait proposé la chose comme ça. C'est pour vous dire, bien sûr, j'ai refusé, je voyais pas trop l'intérêt. Mais lui, il ne se voyait pas clairement me dépuceler. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Lui, pour lui, c'est je te propose un jeu autour du, des jeux autour du sexe.
Il ne voulait pas prendre la responsabilité.
Exactement, c'est ça en fait le souci. Je pense que c'est ça le souci. Ils ne veulent pas prendre cette responsabilité-là. Et rien qu'à l'idée de savoir que je pourrais les faire attendre une éternité avant de me lancer dans ces ébats-là. Pour eux, c'est couru d'avance. C'est bon, c'est là, c'est pas la peine. Laisse tomber, quoi. Je sais que je pourrais le garder pour moi et les prendre en traître, quelque part. Mais je préfère être honnête. J'ai besoin que l'autre le sache. Qu'il soit délicat. Parce que moi, quand je dis que j'y connais vraiment rien, absolument rien. Ça paraît ridicule à mon âge, mais c'est la réalité. Et je préfère que l'autre le sache. Je veux pas qu'il fasse de plan sur la comète, je veux qu'il sache que mes intentions sont sérieuses, c'est aussi pour ça, je pense, que je le dis, clairement, que si tu cherches une histoire d'un soir, mon pauvre, t'es mal barré avec moi parce que j'y connais absolument rien au niveau pratique et que je me lancerai pas avec toi comme ça, qu'il me faudra du temps de toute façon. Je suis vierge, voilà. Thank you. Mon seul et unique baiser, je l'ai eu à l'âge de 34 ans. Je me souviens à l'époque que mes collègues m'avaient annoncé l'arrivée d'un homme plutôt canon, très bel homme, qui arrive dans la société, toutes les filles se retournent, mais c'est qui, il fait quoi, il travaille avec qui, etc., etc. Bon, très honnêtement, j'y prêtais pas attention parce que je me suis dit, bon, les probabilités pour qu'il s'arrête sur moi sont tellement infimes que je tente même pas. Donc, il se trouve qu'une fois, je le croise dans l'ascenseur et il ressemble à un acteur de télé. Donc, spontanément, je lui dis, c'est dingue, on vous a jamais dit où vous ressemblez à tel acteur. Il m'a dit, je connais pas du tout, je vois pas du tout qui c'est, mais je regarderai. Je retourne à mon poste et je reçois un message. Effectivement, il y a un air. Alors là, grosse surprise, mais comment cet homme m'a retrouvé déjà? Comment il a trouvé mon identité? Puisqu'il ne savait pas qui j'étais. Et comment ça, il m'écrit à moi. Et donc, on discute. Après de longs échanges, il me propose d'aller boire un premier verre. Moi, je me dis, waouh, c'est un collègue de travail, il vient d'arriver, il y a toute la gente féminine qui est derrière lui. Moi, je suis là comme un cheveu sur la soupe. Je vous cache pas que j'ai appréhendé le moment. Je me suis confiée à une amie qui m'a vivement poussée à aller boire ce verre avec lui. Donc, je suis partie boire ce verre avec lui. Ça s'est très bien passé. Le soir, avant de se quitter, il a voulu m'embrasser, je l'ai repoussé. J'ai eu peur. J'ai pris la fuite, hein. Clairement, j'ai pris la fuite. Donc on est reparti chacun de son côté, et puis la semaine qui a suivi, il m'a proposé de faire le tour du pâté de maison, hein, du bureau, hein, ni plus ni moins. Je me suis dit non, c'est pas convenable, j'ai beaucoup de boulot, je peux pas. J'en ai reparlé à mon ami qui m'a poussé, qui a insisté pour que j'y aille, et donc en descendant, ni une ni deux, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, il m'a embrassé. Voilà. Je m'y attendais vraiment pas. Hein. On s'est arrêté, on discutait, hein, et je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, et ça a été vraiment un moment. Enfin, je considère ce moment comme magique, mais vraiment, j'ai l'impression d'être sur un nuage, tout simplement. Je sais pas, c'est doux, délicat. Je frissonnais, je me laissais aller, alors que j'ai beaucoup de mal à me laisser aller. Et là, pour le coup, il y avait un goût sucré. J'ai perdu pied, clairement. Je me suis envolée. J'ai oublié qui j'étais, où j'étais. J'ai oublié que c'était mon collègue. J'ai eu une sensation d'apaisement. Je sais pas comment vous expliquer. J'étais partie. Pour moi, j'avais décollé. Je sais pas. J'étais dans un autre monde. C'est vraiment la rencontre comme je voudrais qu'elle se passe. Mais bien sûr, pour moi, oui, je me suis dit, c'est peut-être le début d'un truc. Et alors là, j'ai le gros lot, parce qu'il fallait voir l'homme. Hein. Je me suis dit, ça y est, c'est à mon tour, enfin ça arrive. Ouais, peut-être le début d'une histoire, mais bon, qui est vite redescendue, hein. Je suis vite redescendue sur Terre. Hein. Alors comment j'ai su? C'est simple, hein, les gens parlent, et lui, dans l'équipe où il était, il avait annoncé qu'il allait se marier dans quelques mois, que ça faisait déjà 6 ans qu'il était avec sa copine. Enfin, je suis vraiment tombée des nues. J'ai eu l'impression que le temps s'est arrêté. Je me suis dit aussi que de toute façon, c'était trop beau pour que ça arrive là, maintenant. Que c'était ma faute à pas de chance. Il est comme il est, va falloir avancer malgré tout. Hein. Après, c'est vrai que être dans la même société, travailler avec quelqu'un qui vous a séduite et qui vous a menti, je me suis demandé comment j'allais gérer ça. Je l'ai géré tant bien que mal, et vraiment, gros coup de chance, cette personne est partie peu de temps après de la société. Vraiment coup de chance. Voilà. Moi, j'ai la peine parce que j'ai toujours voulu fonder un foyer. J'ai 38 ans. Mes chances de fonder un foyer, ça me nuise avec le temps. Donc oui, j'ai de la peine. Il n'y a jamais eu de flirt poussé ou quoi que ce soit. Au même titre que quand un homme m'approche, ne serait-ce qu'un collègue, quand il m'approche, s'il a le malheur de me toucher, c'est mon corps qui réagit comme ça, je fais des bonds. Et ils ne comprennent pas. À l'intérieur, j'ai pas l'impression d'être finie. Il manque quelque chose. Cet aboutissement, cet accomplissement, je l'ai pas. Je l'ai pas. Donc vous voyez en apparence une femme, mais à l'intérieur, je le suis pas. J'ai l'impression d'être une petite fille. À l'intérieur, pour moi, il y a une petite fille. Une petite fille dans le corps d'une femme.
Mais si vous le vouliez ce soir, vous pourriez très bien coucher avec un homme, c'est facile.
Je pourrais. Effectivement, je pourrais, et pas qu'une fois, je me suis faite la réflexion. Hop, je me lance, vous avez plein de sites, hein, vous avez des escort boys, etc. Je me dis, bah pourquoi pas, tiens, comme ça je casse le truc et peut-être que ça va me décoincer, finalement. Je me dis, ça pourrait marcher. Ben non, j'y arrive pas. Je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Je trouverais ça, encore une fois, tellement pathétique. Alors déjà que j'ai de la peine pour moi, je ressens de la pitié. Imaginez, c'est en plus... Je vais en deux minutes, j'ai envie de dire, foutre en l'air quelque chose qui quelque part m'appartient. Je vis avec. Enfin, c'est comme si j'avais fait vœu de chasteté, hein, clairement. Les fameux sex toys et compagnie, c'est hors de question. C'est tabou, tout ce milieu-là est resté tabou.
Mais votre corps ne vous réclame rien?
Il est en mode disette, je sais pas, famine, je sais pas. Il veut pas, je sais pas. Peut-être qu'un jour il se réveillera, j'en sais rien. Mais là, en tout cas, il est clairement endormi. Limite, il est peut-être même éteint. Au fond, je suis comme les autres, hein, mais bon, voilà, j'ai loupé le coche. Il y a un moment où il aurait fallu que je saute dans le wagon, je l'ai pas fait. On peut vivre sans sexualité, la preuve, hein, je vis sans. Mais ouais, le manque d'affection, vous dire que demain, vous pouvez être renversé par une voiture et vous dire, bah mince alors, jamais un homme m'a serré dans ses bras. Là, je l'ai mauvaise, clairement, je l'ai mauvaise. J'ai clairement raté quelque chose. Il me reste un fond d'espoir, mais c'est vraiment un fond. J'y crois pas plus que ça. Si ça devait arriver, pour moi ce serait de l'ordre du miracle. Ah, il m'arrive enfin quelque chose. Mais ce serait vraiment de l'ordre du miracle.
Première fois donc que j'ai fait l'amour avec quelqu'un, j'arrête pas de penser à ça. Souvent, en me marrant tout seul dans le métro, dans l'autobus ou dans la rue, comme ça, je revis cette scène qui était a posteriori extrêmement comique, que j'ai vécue sur le mode tragique, mais qui maintenant apparaît comme tout à fait comique. Et la réalité, malheureusement, était beaucoup plus sordide. J'avais donc à peu près 13 ans et demi, quand la période de la masturbation s'est avérée largement insuffisante, je me suis dit, bon, ben ça y est, maintenant, je ne savais pas comment m'y prendre, je ne savais pas ce que c'était. J'avais vu des photos, j'avais vu des dessins dans les livres, mais je ne savais pas comment c'était fait, un corps de dame. Alors je me suis dit, mais il n'y a pas d'autre solution, il faut que j'aille voir. Alors j'ai volé de l'argent dans le sac de ma grand-mère. Et si je lui avais demandé de l'argent pour aller baiser une prostituée, visiblement, elle serait morte d'un infarctus immédiatement. Et donc, voilà, je crois que c'était 20 francs à l'époque. Somme fabuleuse. Et elle habitait à Montmartre. Et je passais mes journées, quand j'étais pas à l'école, à marcher à pied. C'est pour ça que je connais assez bien Paris. J'ai sillonné tout Paris à pied. J'avais parfaitement repéré les rues chaudes. Il y avait des dames qui, avec des sacs et des bas et des talons hauts qui attendaient. Alors, je me suis pointé à Pigalle et pendant toute une après-midi, j'ai hésité, je tremblais, j'ai dû perdre à peu près 3 kilos en sueur. Je ne savais pas comment m'y prendre. Finalement, je suis rentré dans un bar. Alors donc, je rentre là-dedans et j'avais un seul pantalon long parce que ma mère voulait absolument que je porte des pantalons courts. Alors j'avais emprunté un pantalon qui était beaucoup trop large pour moi, style Khrouchtchev, comme ça. Je me sentais très mal à l'aise dans ce pantalon. Je rentre dans le bar et comme ça, je me dis, je fantasmais que j'étais un adulte. Je me dis, je vais faire comme un shérif dans un film de cow-boy. Je vais au fond du bar et je tape avec mon poing sur le zinc, et je dis « un demi !» Mais j'ai dû dire ça avec une voix tellement étranglée d'émotion et de bizarrerie que tout le monde a éclaté de rire, parce que je vais avoir l'air d'un jeune garçon. Évidemment, il y avait ce qu'on appelle des dames, des putes qui étaient là. Alors c'était mal parti, parce que déjà, avant même que je vous l'avoue, je se foutais de ma gueule. Il y en a une qui me paraissait moins atroce que les autres. « Alors bébé, tu me payes un verre ?» J'ai fait celui qui trouvait ça drôle. Et j'ai dit, mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez boire? Dit, ah, tu vous vois maintenant? Bref, je ne savais rien faire comme il fallait. Alors immédiatement, elle a commencé à me dire, alors tu montes. J'avais vu dans un roman d'Henri Miller qu'il fallait discuter le fric. Combien tu prends? Elle me dit, oh, ben, je sais pas combien t'as. Alors, parce que, évidemment, elle avait vu que j'étais un môme, que j'avais pas honte. J'ai dit, ben, j'ai 20 francs. Elle me dit, 20 balles, c'est tout ce que t'as, mais t'as de l'argent pour l'hôtel. Alors je dis, comment, il faut payer l'hôtel en plus? Alors elle m'a dit, oui, alors j'avais pas. Elle me dit, bon, ben, je vais te prendre 15 francs, puis tu donneras 5 balles à l'hôtel. Alors à ce moment-là, c'était plus les sourires, la gentillesse, c'était, allez, vite, allez, on est pressé, on n'a pas de temps à perdre. Allez, hop, pas le temps de finir le demi, on traverse l'impasse, on monte. Elle dit, salut, chambre numéro 4, elle prend une clé, elle monte, allez, hop, allez, dépêche-toi, pas le temps de respirer. Moi, j'étais déjà complètement terrorisé, je me casse la gueule dans l'escalier en montant. Elle arrive, elle me dit, donne l'argent tout de suite. Alors, je sors l'argent, j'ai tremblé, j'étais comme à l'armée, tu comprends, devant un adjudant. Alors, on dit, allez, à poil. Alors, je commence par enlever ma chemise. Mais non, garde ta chemise, c'est seulement le pantalon. Alors, j'enlève ma chemise, j'enlève mon slip. Évidemment, j'étais dans un état complètement terrorisé. Elle va faire des remarques sur mon sexe, évidemment. Mais non, elle s'en foutait complètement. Elle m'amène vers le lavabo. Alors, elle me dit, ramène-toi. Je me sentais complètement en dehors de cette scène, comme quelqu'un qui regardait ça comme particulièrement ridicule. Bref, elle me bouscule, elle me brutalise, me jette sur le lit, enfin, me brutalise, elle me dit, dépêche-toi, tout. Elle relève sa jupe, elle n'avait pas de culotte, elle se met sur le lit, comme ça, les jambes écartées, en me disant, allons-y. Mais allons-y quoi? Moi, je savais pas quoi faire. Et puis, je savais pas comment m'y prendre. Et puis, je n'étais pas en érection, parce que la moindre qu'on puisse dire, c'est que c'était pas du tout désirable pour moi, ce truc-là, comme ça, dans ces circonstances-là. Et en plus, j'ai remarqué que le dessus de lit était d'un ignoble, sale, épouvantable, et ça puait, ça sentait mauvais, cette chambre d'hôtel. C'était pas du tout le beau rêve des mille et une nuits. Et puis elle m'a dit, allez, dépêche-toi, dépêche-toi. C'était toujours dépêche-toi. Et je me suis retrouvé dans la position du missionnaire sur cette dame. Et puis, je suppose qu'elle regardait sa montre pendant ce temps-là. Enfin, bref, ça a été une expérience absolument horrible, dégueulasse. Et j'ai remarqué une chose qui m'a terrorisé. Je ne sais pas si c'est vrai ou si je l'ai fantasmé après. C'est que, au lieu d'être doux et chaud et merveilleux, son sexe était dur comme du bois, comme du ciment. En tout cas, c'était horrible. Finalement, elle n'a même pas dit au revoir. Elle s'est lavée, elle s'est barrée, elle a laissé la porte ouverte. Je me suis retrouvé tout seul dans cette chambre d'hôtel à réfléchir, mais qu'est-ce que je fous là?
C'était ma première fois un reportage d'Alice Milo réalisé par Perret Legras avec un coup de main d'Anne de Pelchin. Merci à Myriam, Louis et Clara. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 28 mars 2016. C'est Sandrine Chaperon ainsi que Jeanne Delecroix qui m'ont aidé à préparer cette spéciale programmation d'été.